Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Ce matin, 9h pétante dans le bureau de Paris.
Allez là, je veux voir tout le monde sur le pont.
Oui, après deux semaines de rodage, le nouveau réalisateur de l'émission dresse un premier bilan.
Vous vous mettez en rempart deux.
Mais c'est pas possible, on est trois. Ah bah qu'est-ce qui lui arrive au nouveau là?
Il avait l'air tellement sympa dans les couloirs l'année dernière.
Bon, le premier bilan n'est pas brillant. Oh. Il est nul. Oh. Cinquième saison, vous vous endormez là? Ça ronronne.
Il est encore plus tyrannique que Charline.
Ouais, silence vrai. Arnaud.
Alors silence Juliette, dans ce cas, parce qu'ici on s'appelle
un commentaire Vanhoeker.
Alors dans mon cas, ce serait un commentaire Vanhoeker.
Ok, Vanhoeker. Alors, qui on reçoit aujourd'hui?
C'est pas Miss France.
Non, c'est Zaya.
Tariq Ramadan.
Oui, non, monsieur le réalisateur, moi je sais. On reçoit Yannick Agnel, le nageur. Oui,
bien, Vanhoeker. Et qu'est-ce que la natation?
Alors, c'est essentiellement du chlore.
Monsieur, comme le dit notre invité, un mode de déplacement qui est devenu un sport.
Oui, c'est des muscles, ma passion. Des muscles, beaucoup.
Bien vu, Maurice. Du muscle. Alors, on va la muscler, cette émission.
Et en revanche, c'est Meurice, moi.
Silence, c'est rigolo.
Ok, d'accord.
Du muscle et de la discipline. Allez, chacun dans sa ligne d'eau. Et je veux plus vous entendre!
Ah ben non, mais c'est-à-dire que le concept de la radio, c'est de parler dedans, donc.
On joue au plus malin, Maurice?
Maurice.
Ouais. Tu fais ça dans la rue, mais pas ici, ok?
Ah, c'est vrai, espèce de nazi, alors.
Celui-là. Comment?
Non, mais je disais merci, je dis merci. C'est vrai qu'on manquait de discipline ces derniers temps, c'est bien, ouais,
alors,
c'est...
toi, tiens bien ta ligne d'eau, hein, parce que je pourrais te noyer. France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour: il ne faut pas vendre la start-up avant de l'avoir pitchée. Et voici le menu déroulant dont le premier sujet a été choisi par Juliette.
Elle s'appelle Blanca Nagy. Elle est hongroise et du bas de ses 19 ans s'oppose à Viktor Orban. D'abord par des discours et à présent en concourant au municipal de sa ville. Quand Orban la traite de misérable petite prolétaire, elle lui rétorque « bite à moustache ». Tiens, ça me rappelle quelqu'un.
Napoléon mon cul, m'intéresse pas du tout cet enflé avec son chapeau à la cou.
Les enfants sans papier n'ont pas de cahier non plus, forcément. Les familles en situation irrégulière ne bénéficient pas de l'allocation de rentrée scolaire. Alors à Nice, des associations ont procédé à une distribution de fournitures scolaires.
Vous avez gagné cette magnifique ramette de papier.
À la fin de l'année, les Américains auront acheté plus de vinyles que de CD. Plus la musique est dématérialisée, plus on achète de 33 tours. Et en toute logique, d'ici 10 ans, on devrait revenir au Walkman à cassette.
Je m'en doutais, je vous apportais un enregistrement. Vous avez l'auto-reverse.
Bien sûr. Elle est là. Déjà acheté tout Higelin et tout Bowie en trois fois. C'est-à-dire en cassette, en CD et en spray. Juliette Arnaud qui a composé une brigade du rire.
Oui, une brigade belle et une brigade décomplexée. Nous aurons tout d'abord Rukyata Ouedraogo qui adore qu'on lui touche la tête en lui disant « Oh là là, c'est fou, c'est tout doux, c'est vraiment tes cheveux !» Alors Rukyata, de quoi on parle aujourd'hui?
Bonsoir Juliette. Aujourd'hui, je vais vous parler des matchs de foot qui a fait polémique dans la savane ce week-end.
Ensuite, nous aurons Guillaume Meurice, notre sous-commandant Marcos à nous, mais sans armes, sans armée et surtout, sans aucune capacité à la bagarre.
Et on dit pareil avec mes cheveux, mais bon, c'est un autre sujet. Moi, je vais vous parler racisme anti-blanc aujourd'hui, terrible fléau qui frappe la France. J'ai même rencontré une dame qui avait un avis sur vous, Juliette.
Ah, t'es une saloperie de française.
Ouais. Ah, c'est terrible.
Exactement moi. Et enfin, Hippolyte Girardot, celui qui est en polyamour avec la Ritaline et la Cérola, le chaos apaisé, c'est sa vie.
Bonjour.
Eh bien aujourd'hui, je vais vous dire qu'il faut vive la dépression.
Ça va pas mieux.
Donc c'est la Ritaline.
Voilà.
Et voici celui qui aura pour mission de ne pas noyer le poisson. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Vous êtes
Yannick Agnel.
Charline Vanhoeker, Juliette Arnaud.
On l'aime ce jingle avec ce petit rire.
Bienvenue Yannick Agnel.
Merci, je suis vraiment content d'être là.
Bah, nous aussi, et puis on a un champion olympique avec nous de natation, Yannick Agnel. Et vous publiez un roman de fiction, un roman jeunesse, dont le héros s'appelle Yann. Tiens donc, il a 15 ans, il est inscrit en sport-études, c'est un nageur et ses parents sont en plein divorce, alors il préfère quitter Nîmes pour aller intégrer le centre de formation de Nice. Le roman s'ouvre sur Yann qui a encastré son 1m90 dans la bagnole de son père, son dudule comme il dit. Ils sont sur la route de Nice avec dans la bagnole qui l'étalonne, la maman. qui sont en dispute. Une introduction qui est à la fois triste mais aussi comique. Et on suit Yann qui prend son indépendance à 15 ans. On suit son émancipation, son intégration au centre de formation, ses rencontres. C'est votre histoire mêlée de fiction, Yannick. Vous auriez pu faire comme tout le monde et écrire une biographie. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi la fiction, en particulier la fiction jeunesse, un roman pour adolescents et plus?
Déjà, j'ai rarement l'habitude de faire les choses comme tout le monde. Ça m'énerve. et je crois que tout avait été à peu près dit sur la natation, sur la manière dont c'était très difficile, dont il fallait compter les carreaux et dont... quand on était en soirée, ça partait un peu en sucette. Donc je me suis dit, tiens, on va faire un petit peu autre chose. Et non, en l'occurrence, ce sont les gens de chez Hachette Jeunesse qui m'ont contacté en me disant, écoute, voilà, on t'a entendu sur un podcast, t'as envie d'écrire, viens, on discute. On discute de ce que tu pourrais faire. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et j'avais envie de léguer, de transmettre un truc aux jeunes. Ça, c'est plutôt cool.
Ah, mais c'est exactement ce
ça
qu'on...
Ça se sent.
Quand on le lit, c'est ce qu'on se dit. On se dit, vous avez une passion, c'est la transmission. Et surtout, quand la transmission transmet la rébellion. Ce qui a l'air d'être une chose ambivalente, mais qui, chez vous, est très claire. Il y a tout un tas de personnages qui sont des gens qui transmettent. Le grand-père, l'ombre du grand-père mort. Yann Thorpe, bon, bien sûr, qui est en poster dans la chambre de Yann, mais qui lui parle quand même. Bah, c'est ça, à 15 ans, on a des amis imaginaires. Le prof de français, Max, l'entraîneuse, Nola. Mais aussi le voisin, Samuel Rubinstein, sa petite-fille, Rachel. C'est fou, ça. Vous êtes encore quelqu'un d'hyper jeune et vous êtes vraiment sur l'idée de qu'il faut faire le chemin entre les générations.
Ouais, parce qu'on est en train de se perdre. Alors, je pourrais parler une heure d'affilée, hein, déjà.
Ah bah c'est le cas, vous êtes là jusqu'à 18h.
Oh bah ça tombe bien.
On annule nos chroniques.
Non mais on va parler de, par exemple, de sport, de d'activité physique. Déjà, on parle de natation. Il y a un gamin sur deux qui rentre au collège qui sait pas nager. Donc voilà, on en est là. Activité physique, sur plus on avance dans l'adolescence, plus on est sur le zéro absolu. On est de l'ordre de entre 5 et 10% des jeunes qui pratiquent une activité physique régulière, même pas quotidienne.
La masturbation ne fait pas partie de l'activité physique.
Bon, y en a qui sont sûrement intéressés. Donc l'idée, c'était pour moi d'allier deux passions, la lecture, la littérature, et puis d'un autre côté des sujets qui me plaisent et qui forment un petit peu mon quotidien, donc le sport, pour le coup la musique, les jeux vidéo,
la littérature et la poésie.
Ouais, la littérature, la poésie, complètement. Et donc voilà, on a essayé d'agréger tout ça et de pas le rendre trop moralisateur en mode tu feras ci, tu ne feras point. Justement, l'idée c'était de raconter quelque chose qui soit proche à la fois des gamins et puis qui puisse leur parler directement. Et je trouvais que ça avait jamais été fait. Alors il y avait quelques BD, par exemple Antoine Griezmann qui a sorti une petite BD à l'époque, etc. Mais pas sous la forme d'un roman. Et pour le coup, comme les gens de Hachette ont eu la gentillesse de me donner carte blanche, et on est parti là-dessus, je me sentais pas de le faire tout seul, parce que c'est vrai que je le disais tout à l'heure, moi j'ai une écriture un peu compliquée, un peu alambiquée, j'aime pas mettre des points, donc voilà. C'est...
Ah, vous allez bien vous entendre avec Hippolyte Durand.
Alors vous avez écrit,
c'est une école, Guillaume, c'est une école.
Vous avez écrit avec Pascal Ruter, et c'est vrai que tous ces aspects, un peu de politique, un peu de société, de la poésie, toutes ces choses sont coulées dans le récit de fiction.
Dans le récit,
et se marient très bien.
Et avec au milieu, dans tout le roman en fait, un portrait très beau et très mélancolique d'une jeune femme qui est aussi quelqu'un qui vous transmet des choses, qui est Camille, très clairement c'est de Camille Muffat dont vous parlez, c'est super émouvant 4 ans plus tard de la voir renaître sous vos mots, vous la décrivez le point levé parce qu'elle a eu un grand-père communiste, vous décrivez des choses vraiment très douces et très très belles sur elle, c'était très important pour vous.
Oui, c'est important. Mais c'est d'ailleurs le seul personnage qui a son vrai prénom. Tout le reste, c'est uniquement de la fiction. Et oui, c'était important de lui faire peut-être pas un dernier adieu, mais au moins un coucou. Et sachant toutes les bonnes choses qu'on a vécues, moi, c'était ma grande sœur. Vraiment, c'était de la famille. Et puis. Ça a été extrêmement compliqué, donc là, de pouvoir lui rendre hommage en quelque sorte et montrer ce qu'elle a été pour moi, puisque même dans le roman, le personnage principal, c'est une vraie grande sœur, quelqu'un d'inspirant. C'était chouette. C'était vraiment important. Et par contre, tout le reste, on s'est amusé à noyer le poisson, justement. Et on sait pas ce qui est la fiction. Peut-être même un petit peu trop. Parce que parfois, je reçois des messages en mode « Mais je savais absolument pas que vous aviez fait tout ça dans votre jeunesse. » C'est super impressionnant.
On va y venir justement parce qu'on a choisi des sujets qui abordent certains aspects du roman. Qui a des très jolies formules aussi. Vous expliquez quand vous arrivez dans votre chambre, vous vous installez dans une famille à Nice. Vous avez 15 ans, vous quittez vos parents et vous accrochez un poster de Yann Thorpe au mur et vous dites... Vous écrivez avec Pascal Ruter, 4 punaises plus tard, j'étais chez moi. Il y a ce genre de formule très très bien. Et donc vous décrivez bien aussi ensemble l'eau. Vous dites, il suffit d'une seconde pour saisir son humeur du jour. Des fois, elle est brutale et hostile, comme aiguisée. D'autres fois, au contraire, douce et moelleuse. Elle se laisse faire. Coup de bol, elle n'a pas l'air trop mal disposée aujourd'hui. C'est vraiment ça quand on arrive au bord du bassin ?
Alors c'est une réalité et c'est un truc que j'avais en tête depuis des années puisque effectivement tous les matins je me mettais à l'eau, je plongeais, et j'avais l'impression d'être dans quelque chose de différent. Et donc je passais pour un illuminé en disant qu'en gros j'avais l'impression que parfois c'était du beurre, parfois c'était de l'aluminium, j'avais l'impression de passer à travers des barbelés tellement c'était dur et j'avais aucun moyen finalement de l'exprimer. J'allais pas dire ça dans une interview parce que passer pour un idiot.
Oui, on l'aurait repris dans le journal idiot, 17h17.
Mais à l'écrit ça passe très très bien et on s'imagine pas à quel point elle peut être changeante. C'est tout de la piscine tous les jours quand vous
entraînez. Il y a une constante, c'est qu'elle est tout le temps froide.
Yannick Agnel est avec nous. Il publie Yann aux éditions Hachette Roman. Vous aurez compris qu'on a beaucoup aimé, qu'on vous le recommande. Coécrit avec Pascal Ruter. Il est avec nous jusqu'à 18h, le premier double champion olympique de natation.
Ouh ! Ouh !
Et à James sur France Inter, car oui, vous écoutez la première radio de France. Et oui, écoutez, on a un champion olympique avec nous, alors on est obligé d'essayer d'un petit peu se pousser du col, évidemment.
Vous faites la crâne, j'ai l'impression. C'est ça l'expression ?
Vous faites de la crâne.
De la crâne, pardon. Voilà.
Au bout de là, on dit vous crânez.
Voilà, ben voilà bien sûr, ouais. Chez nous aussi. Yannick Agnel est avec nous. Juliette, dites-nous qui est là aussi.
Il y a que des cadors. Il y a Hippolyte Girardot, ouais. Ensuite il y a Ouedra au gauche, très fatigué.
Soyez raciste,
Guillaume Meret, excusez-moi.
Allez, tant qu'on passe à l'information, je pense.
Je vous annonce que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
Le journal de presque 17h17.
Tu déconnes ?
Non.
Quoi, tu es sérieux ?
Passez-moi Paris, code rouge.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera du campus de la République en marche.
Ah oui, on les aime, cœur avec du charisme d'endives tièdes.
On parlera également des déclarations de Jair Bolsonaro.
Oh là là, on l'aime aussi, cœur avec des bruits de bottes.
Et on parlera également de Jean-Marie Bigard.
Oh là 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 là, on l'aime encore plus, cœur avec des blagues de tub.
Ce week-end avait lieu le grand campus de la République en marche, ce qui nous a donné la déclaration du week-end, oui, faite par Édouard Philippe.
On n'est jamais candidat ailleurs qu'à l'endroit qu'on a dans son cœur, dans sa tête et dans ses tripes. Et moi, mesdames et messieurs, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée.
Ah, les tripes à l'eau salée. Voilà pourquoi il a toujours l'air constipé, finalement.
Politique encore. Valérie Pécresse veut mener campagne contre le bizutage et elle précise en avoir été victime elle-même.
Elle a en effet été victime d'un bizutage assez violent puisqu'elle s'est retrouvée à devoir soutenir Laurent Wauquiez aux européennes.
C'est terrible, terrible. On ne souhaite ça à personne.
C'est chaud.
Société à présent. Le gouvernement a tranché. Les champs traités aux pesticides devront être séparés de 5 à 10 mètres pour protéger les écoles et les habitations.
Une décision basée sur les conclusions des scientifiques qui avaient prouvé que le nuage de Tchernobyl s'arrêtait à la frontière et qu'il existe des neurones dans la boîte crânienne de Brune Poirson.
Brésil à présent. Jair Bolsonaro a fait l'apologie du régime de Pinochet pour critiquer l'ex-présidente du Chili Michelle Bachelet, dont le père est mort sous la torture du même régime.
Bonne ambiance. Condamnation unanime de la communauté internationale, sauf de la France, qui déclare « Super, ça fera des vacances à Brigitte Macron ».
Média, à présent, la semaine dernière sur la chaîne LCI, avait lieu un débat très intéressant dans une émission qui s'appelle « Le Grand Soir ». Un débat portant sur la précarité des lycéens. On a pu entendre la bonne blague du présentateur en réponse à Daniel Simonet.
Vous savez qu'on a des jeunes lycéens qui, sur la région parisienne, se trouvent déjà obligés de travailler pour subvenir à leurs moyens,
oui,
le soir. Bon,
oui.
Donc cette question sociale, et on n'a plus d'assistantes sociales suffisamment dans tous les établissements scolaires. Bon.
Vendre de la drogue, par exemple, tard le soir dans les cités, donc c'est, forcément on se couche très tard.
Oh, la bonne blague.
Blague.
Blague de fin de repas, on peut dire. On la doit au présentateur Joker du journal de 20h de TF1 qui s'appelle Julien Arnaud, sans doute de la famille de Juliette.
Non. Sport à présent, lors du match de football France-Albanie, le technicien responsable des hymnes au stade a confondu l'hymne albanais avec l'hymne d'Andorre.
Voilà, sans doute encore la famille de Juliette aussi. Hein, toujours problème de fin de repas, a priori.
La boulette, mais le speaker s'est repris en s'excusant auprès des supporters albanais, bien sûr.
Bien, mesdames, messieurs, chers supporters, encore toutes nos excuses pour les supporters de l'Arménie, voici donc l'hymne de l'Arménie, s'il vous plaît.
Quand ça veut pas, s'il vous plaît les Arméniens, puisque je vous rappelle, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de l'Albanie. Hein.
Ouais. Bon, alors donc, Andorre, Arménie, Albanie,
oui,
bon, ça arrive.
Ça arrive, ça arrive.
Voilà, on rappelle que dans les années 40, la France avait complètement confondu l'hymne français avec l'hymne allemand.
Oui, ça arrive. Allez, on enchaîne avec un plateau de grande qualité chez nos confrères et néanmoins amis de Sud Radio. Une émission où papotaient Jean-Marie Bigard et Elisabeth Lévy à propos de Blanche Gardin.
Très drôle.
Mais si, elle est très drôle, mais alors, j'aurais partagé, d'ailleurs je l'ai dans ma tête, j'ai partagé le Molière qu'elle a reçu avec elle, parce que je me suis dit, c'est mon alter ego au féminin.
Et on salue Blanche, évidemment, ça va lui faire plaisir, l'alter ego à Jean-Marie.
Et moi aussi, quand Maria Callas, elle a eu des prix, je les ai partagés dans ma tête avec elle.
Oui, je comprends très bien. Allez, on termine avec un petit agenda de la semaine.
Oui, mercredi aura lieu la 21e édition du Festival de Fiction de La Rochelle.
Attendez, c'était pas le week-end dernier, l'université d'été du Modem?
Si, mais le Modem, c'est davantage science-fiction.
Ah oui, autant pour moi, d'accord. Jeudi, nous connaîtrons la date de comparution de François et Pénélope Fillon pour l'affaire de l'emploi fictif à l'Assemblée.
Une date qui sera peut-être modifiée. En effet, Pénélope pourrait ne pas être disponible car retenue à son travail.
Oui, beaucoup de boulot. Et enfin, jeudi également, un rassemblement contre l'extension de la PMA aux couples de femmes sera organisé à Lyon.
Et oui, notez bien, ça se passera à 18h, place Bellecour, jeudi 12 septembre 1419.
2019.
Ah oui, mais dans leur tête, c'est 1419. Bien sûr, vous écoutez par Jupiter, c'est France Inter. C'est Yannick Agnel qui est en notre compagnie, qui publie un roman intitulé Yann aux éditions Hachette Roman, un roman jeunesse, et qu'on peut lire à tout âge, car Juliette et moi avons beaucoup apprécié.
Mais parce que nous avons tous les âges, Charlène.
Bien sûr. Vous avez choisi le premier sujet, justement, Juliette.
Oui, alors c'est un article de Slate où on nous parle d'une jeune femme qui s'appelle Blanca Nagy et qui est écœurée par la politique gouvernementale de Viktor Orban et telle David contre Goliath, en fille. Blanca, cette aînée d'une fratrie de 6 enfants, fait front. On lui reproche alors à peu près tout et son contraire, ses origines, son sexe, son poids, oui, ses opinions et bien sûr son âge. Jojo Brassens a peut-être quelque chose à lui souffler.
Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant.
j'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
Alors, on a pensé à vous, Yannick, pour ce sujet, parce que votre personnage, Yann, c'est un ado, mais c'est très clairement un ado adulte. D'abord, c'est un athlète. Ensuite, il est doté d'empathie, ce qui n'est quand même pas, en général, le propre des ados. Il prend même en charge certains de ses intimes et d'autres, qui ne sont pas des intimes, des migrants, par exemple. Quel regard vous posez sur quelqu'un comme Blanca?
Je trouve que c'est extrêmement courageux. Alors après, en me mettant un tout petit peu à sa place, je trouve que c'est très compliqué quelle rhétorique et quels arguments on oppose à des gens qui nous attaquent uniquement ad hominem. Par exemple, que répondriez-vous à Bolsonaro ?
Miroir magique.
Ouais, non mais
toi, ouais.
Ouais. Non mais on est là-dedans, donc.
Mais peut-être que
Je trouve que c'est très compliqué. Après, elle a un courage immense. Peut-être la preuve que la démocratie est pas totalement morte dans son pays et que elle renaîtra sous peut-être ses couleurs ou celles de quelqu'un d'autre.
Parce que Blanca Nagui a 19 ans, Greta Thunberg en a 16. Ouais. Votre héroïne Rachel, qui fait passer des migrants dans les montagnes à côté de Nice, elle a 17 ans. C'est quand même un truc d'une génération, ça fait penser à une autre génération qui a été celle des hippies, qui s'est aussi dressée face à la génération de leurs ascendants. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une chose comme ça qui rôde ?
Il y a un truc dont je suis sûr en tout cas, et je lisais, alors je sais pas, les sondages on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut, mais ma génération a l'impression de servir à rien. Moi je fais partie de ces gens où je me dis mais on est nantis, on a une chance incroyable, mais par contre j'ai pas l'impression d'avoir de but précis dans la vie, et c'est pour ça que j'ai envie d'être au service des autres, de faire des choses pour les autres. Et donc toute cette jeune génération là se prend les ricanements finalement dans la face de gens et bien qui sont souvent aux commandes et qui y arrivent pas eux-mêmes. Et je lisais un truc assez intéressant d'ailleurs pour une fois sur Twitter d'une personne qui rétorquait à quelqu'un qui taclait l'âge de Greta Thunberg en disant que Alphonse de Lamartine avait écrit la plupart de ses grands bouquins à 16-17 ans. Et que personne aurait osé à l'époque lui dire que il était un peu jeune pour réfléchir à l'esprit des lois notamment.
Et on peut faire des grandes choses étant adolescent. La preuve, Yannick Agnel avec nous. Et il est 17h30 sur France Inter, il est 17h30 à Paris et à Nîmes, d'où vous venez, Yannick. Et avec nous aujourd'hui, Rukyata Ouédraogo qui, oh là là, dites donc, la polémique de ce week-end, c'était quand même...
Récemment, un grand tournoi de football fut organisé dans la savane sous l'égide du roi Lion. Une belle compétition. L'équipe des rhinocéros écrasa celle des girafes. Les babouins éliminèrent les phacochères. Les suricates ont fui devant l'équipe des serpents, lesquels ont pris les jambes à leur cou devant l'équipe des mangoustes. En finale, l'équipe des lièvres affronta celle des hyènes. Les lièvres plus rapides ont pris l'avantage. Mais la tension est montée et des supporters de l'équipe des hyènes ont traité des lièvres de singes. De singes, vous vous rendez compte? Bon, il y a sûrement de grands intellectuels sur les supporters. De là à dire que les supporters sont de grands intellectuels. Enfin, moi je dis ça, je ne veux essentialiser personne. L'affaire aurait pu en rester là, mais Hugues le Lièvre, un ancien champion de foot, a dénoncé le racisme de certaines hyènes. Médias et réseaux sociaux s'emparèrent alors de l'histoire pour en faire une belle polémique comme on les aime bien dans la savane. Et c'est à partir de là que tout est parti en nouille. Les lièvres accusaient les hyènes d'être des racistes. Pour preuve, on a déjà vu des hyènes courir après des lièvres pour les manger. On n'a jamais vu l'inverse. Les hyènes accusaient les lièvres de faire du racisme anti-hyènes. C'est coloniser les lièvres qu'on a mis au pouvoir des dirigeants lièvres corrompus et siphonner les ressources naturelles qu'on pratique la discrimination à l'embauche et au logement qu'on est raciste. Bah non, ça n'a rien à voir. Bouki, chef du parti des hyènes patriotiques, a dit que les lièvres faisaient du racisme anti-hyènes en refusant de se laisser traiter de singes. Des racistes assumés se sont plaints qu'on ne les traite que de racistes alors qu'ils sont aussi misogynes et homophobes. Les trolls et les contre-trolls polluèrent tant les réseaux sociaux qu'il fallut faire appel à des experts de télévision pour s'y retrouver dans ce débat confus. La panthère noire vint expliquer que le problème, ce n'est pas qu'on accuse les supporters hyènes d'être racistes, mais que ceux-ci se permettent de traiter les lièvres de singes. L'hippopotame s'élève journaliste sportif affirmait au contraire que le racisme anti-hyène est le véritable problème.
Le chacal polémiste à la mode a exigé que tous les lièvres soient rebaptisés Corinne. Alors, une vieille guenon, jusque-là silencieuse, a dit « Les singes sont méprisés par tout le monde. Le mot singe est devenu une insulte. Mais il faut savoir dépasser ça. Regardez lors du mercato. L'équipe des hyènes a acheté à prix d'or un jouet lièvre qui court très vite et aussi une girafe très forte en tête. L'équipe des lièvres s'est offert un jouet léopard très offensif et une pieuvre comme gardienne de but. C'est la diversité de toutes ces équipes qui fait leur force. Elles savent utiliser le meilleur de chacun. Et nous, les singes, ce qu'on aime par-dessus tout, au-delà des polémiques, c'est de regarder des beaux matchs et qu'on arrête d'utiliser nos noms pour insulter les gens.
Merci Rukyata de la Fontaine de Ouédraogo pour cette belle chronique. Vous jouez votre spectacle vendredi, on sera le 13 septembre, ce sera en Picardie, c'est ça? Vous jouez à... comment ça
à Poix-Picardie.
À Poix-Picardie, voilà. Le spectacle, je demande la route. Il est avec nous jusqu'à 18h, comme notre invité Yannick Agnel. On aura le contrepoint de cette vision avec Guillaume Meurice dans un instant. Film noir, La Mariée. Non, c'est... oui, c'est ça. Film noir, La Mariée.
Ou sinon, dites un truc au plus.
Ça, c'est vu que je faisais comme si que je connaissais.
Ouais, ouais.
Et puis, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est bien ça?
La Mariée noire, film. Ouais. Ou l'inverse.
La Compagnie créole, le douanier Rousseau. Vous êtes sur France Inter, il est 17h36.
Écoutez, remettez dans l'ordre. C'était tellement playlist. Écouté par Jupiter. C'est Yannick Agnel qui est avec nous, non seulement double champion olympique de natation sur 200 mètres et 4 fois 100 mètres, champion du monde du 200 mètres et du 4 fois 100 mètres à Barcelone en 2013 aussi, 5 médailles d'or, une d'argent au championnat d'Europe senior à Helsinki. c'est ça?
Presque. Ouais, Helsinki, c'était les championnats d'Europe junior.
Ah, voilà, junior.
Il y a bien longtemps.
Et c'est écrit senior sur ma fiche.
Oui, parce
qu'on
que senior, ça me paraît assez bizarre. Quand
moi
même.
Aussi. Ouais. C'est, voilà. J'ai dit deux trucs, j'ai dit deux conneries en une minute.
Oui.
Donc je vais juste rappeler que vous publiez Yann.
Un livre sur Yann Moix.
Voilà.
Vous revenez sur cette polémique. Très émouvant.
Gardez le micro, Guillaume.
Le même prénom.
Oui, alors attention, parce que moi, je vais vous parler d'un sujet terrible aujourd'hui. Le racisme qu'on subit tous au quotidien, même nous, hein, autour de la table. Alors évidemment, tous sauf Rukyata, qui a la chance d'être
mais
née
oui,
avec
sûr.
La bonne couleur de peau, ça, tranquille. On est bien, hein, on a les honneurs de Michel Leeb, on est à l'aise. Ok. Non, je vais vous parler évidemment de racisme anti-blanc qui nous frappe. Hein. Je rappelle que Yannick Agnel, notre invité, voulait à la base participer aux Jeux Olympiques de Zouklov, mais il a dû se rabattre sur un sport de blanc, hein, la natation, c'est terrible. Alors quand on dit racisme anti-blanc, c'est un terme générique, parce qu'évidemment, on n'a pas tous la peau blanche-blanche. Enfin, Hippolyte, en fin de sieste, en plein soleil, il est parfois victime de racisme anti-rougeau, par exemple, on pourrait dire. Alain Finkielkraut est victime de racisme anti-gris. Yann Moix, de racisme vert de gris. Hein, voilà, enfin voilà. On classera ça, je veux dire, dans une généralité, racisme anti-blanc. Alors, c'est le grand débat du moment. Il y a un problème, c'est vrai, il faut le dire, en France, il y a des ghettos de blancs. Je pense notamment à l'Assemblée nationale, par exemple. Véritable ghetto de blancs, les blancs se retranchent comme ça. Donc, il y a un gros souci dans ce pays. Je suis allé le constater encore ce matin en me promenant dans les rues de Paris. On commence avec une dame qui connaît le racisme anti-blanc de près.
Oui, parce que moi j'ai un vendeur qui est africain, d'origine africaine, et souvent il me dit qu'il est en France, mais qu'il en veut beaucoup à la colonisation, donc j'expliquais que c'est derrière nous.
Ça pour vous c'est du racisme anti-blanc ?
Un petit peu, oui, parce qu'il dit que c'est les Blancs qui ont semé le problème en Afrique.
Ouais.
Non, mais il a un peu raison.
Ah, alors attendez, voilà. Ça c'est très classique. On prend toujours le parti de son bourreau. Alors voilà, c'est le fameux syndrome de Stockholm. Bon, là, c'est le syndrome de Bamako, en l'occurrence, mais c'est presque pareil. Donc, selon les quartiers, je dirais, restons vigilants.
Oui, il y a des quartiers, quand vous allez dans le 18e, une fois je suis allée, parce que je suis très cliente des puces de Clignancourt, je faisais la queue à des marchands de légumes. On ne me servait pas. C'est au bout d'un moment, un monsieur qui lui a dit bah, « serre la dame quand même ».
Donc vous ne servez pas parce que vous étiez blanche ?
Je pense, oui.
Comment vous pouvez être sûr de ça ?
Bon, parce que c'était que des Nord-Africains.
Classique, classique. Le coup classique des Maghrébins qui ne servent pas les Blancs, on l'a tous connu ça, hein, vraiment. Hein, c'est pour ça que nous, bah, pour se venger, bah, on est obligé de leur refuser des emplois, des logements, des entrées en boîte. Voilà, c'est soit ça, soit vous nous servez quand on va au marché, putain. C'est compliqué à comprendre, ça a bien 5 minutes. Hein, ça, c'est vraiment lié à un phénomène typique des gens de couleur.
Les gens de couleur préfèrent être entre eux et...
Mais les gens de couleur, est-ce que vous comptez les blancs dedans ?
On a une gardienne qui est de couleur. Elle est très très gentille. Bon, elle fait pas bien le ménage, mais tant pis, on fait avec. On l'aime bien, puis c'est tout, quoi, voilà. Mais à partir du moment où ils se permettent tout et qu'ils jouent sur le fait qu'ils sont de couleur et qu'ils se prennent pour des victimes, et ça, je supporte pas.
Non, c'est insupportable. Ouais. Insupportable, de même que les gonzesses qui viennent chouiner parce qu'elles sont payées moins. Insupportable, ou les gays qui se font casser la gueule dans la rue parce qu'ils se tiennent la main. Quand on est une victime, on doit se comporter quand même avec de la dignité, je dirais. C'est quand même pas compliqué de sourire. Même si vous avez des dents en moins, vous souriez. On doit être correct, n'est-ce pas ?
Si les gens sont corrects et qui nous respectent, nous, ça me dérange pas d'avoir un noir sur mon palier, à condition qu'ils ne viennent pas avec toute sa marmaille, là, et qu'ils se prennent, qu'ils fassent leur cuisine sur le palier.
On n'a pas envie. Donc vous êtes quelqu'un de tolérant ?
Je suis tolérante, mais j'ai mieux chacun chez soi.
Voilà, oui, bah, c'est voilà. Ouais, pareil, je tolère très bien chacun chez soi. Je tolère très bien les Chinois à Pékin, par exemple. Je trouve qu'il n'y a aucun problème, je suis ouvert d'esprit. Même quand je vais en vacances à Djerba, je tolère quelques Arabes. Voilà, c'est parce que je suis comme ça, c'est la France. Alors, vous allez me dire que pendant la colonisation, la France n'était pas vraiment chez elle. Je vous vois venir, les gauchias. Eh ben, je suis allé voir, figurez-vous, un Sénégalais d'origine, pour lui parler de racisme, mais d'abord des propos de Lilian Thuram.
Thuram, il est mal placé pour parler des Noirs, parce que Thuram n'est pas noir.
Hein ?
Thuram est mulâtre. Il n'est pas noir. Obama même n'est pas noir. Hein. Mulâtre, c'est moitié lait, moitié café.
Donc il ne devrait pas, pour vous
non,
parler...
Non, tous les foncés, moi je les appelle foncés parce qu'ils ne sont pas noirs. Il y a beaucoup de foncés qui ne sont pas noirs. Hein. Les Éthiopiens. Eux, c'est des noirs, mais ils sont plus clairs que nous.
C'est compliqué, hein. C'est compliqué, attention. Non, le racisme, c'est un truc assez technique. Alors, vous pouvez être raciste comme ça, un peu à l'arrache, comme ça, pour déconner entre vous. Mais si vous voulez vraiment être un bon raciste, raciste précis, je dirais, il y a un peu de boulot. Alors, accrochez-vous, revenons sur la lutte antiraciste et Lilian Thuram.
C'est une escroquerie. Vous voyez ce que je veux dire. C'est
donc, il y a des nuances. Couleur.
Voilà, et c'est très important.
Donc, si vous êtes noir-noir.
Moi, noir. Les Antillais, comme Thuram, c'est une fabrication française, comme le petit pois.
Ah, oui, alors, bon, là, ça n'a pas de lien vraiment technique. Bon, le petit pois, j'en profite pour faire un petit point historique, inventé en 1712 par Jean-Michel Petitpois, qui a d'ailleurs donné son nom aux légumes. Et Thuram, c'est pareil, les Antilles, c'est pareil. Ça fait du bien de prendre un petit cours d'histoire comme ça. Ça nous fait pas de mal. D'ailleurs, on va conclure avec ce monsieur sur ce qu'il pense des Blancs.
Excusez-moi, il n'y a pas de Blancs sur cette terre. Il n'y en a pas. C'est un mensonge.
Mais alors, moi, je suis quoi, par exemple, pour vous?
Un jour, un blanc m'a énervé. Je lui ai dit, vous avez la peau d'un porc. Et je soupçonne qu'il est juif.
Lui. Oula, alors attendez, non, non, là, là, oh là 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 là, on va pas partir là-dedans. Hein. Il va être obligé de demander pardon à BHL dans 5 minutes. Alors, bah, j'aurais bien voulu lui expliquer qu'il y a des cochons qui sont noirs aussi. Bon, ça fout la merde, ça dépend des races. Que le principe de race humaine n'existe pas, mais que la xénophobie est quasiment, en France en tout cas, toujours dirigée vers des gens dits de la minorité. Heureusement, bientôt, avec le réchauffement climatique, on sera tous cramés et nos cendres auront toutes la même couleur.
C'est sûr, yeah, merci. Guillaume Meurice, une réaction peut-être Rouquetta?
Ah ouais, je suis choquée là. Je sais pas où tu l'as trouvé ton gars là, mais c'est...
Ah ben, bah, dans les rues, partout.
Tous,
cachez-vous. Discuter avec les gens.
Vous êtes sur France Inter et vous écoutez Par Jupiter, une émission aujourd'hui avec Rouquetta et un ghetto de blanc autour. Et notre invité, Yannick Agnel, le nageur qui nous propose un roman jeunesse qui est fort fort bien, qui s'appelle Yann aux éditions Hachette Roman. Et on va aborder ce deuxième sujet avec vous. Quand les parents sont des sans-papiers, leurs enfants sont des sans-cahiers. Alors à Nice, plusieurs associations se sont réunies au siège du Parti communiste pour distribuer des fournitures scolaires à 135 familles. Il y a des demandeurs d'asile ou des sans-papiers qui ne bénéficient donc pas de l'allocation de rentrée scolaire. Pour que les enfants n'aient pas à subir la situation administrative ou économique de leurs parents, un kit scolaire tente de réduire les inégalités en classe. Alors chapeau bas aux bénévoles qui parviennent à respecter à la lettre la liste, fameuse liste donnée par le professeur.
Donc le format 24 sur 32, 48 pages, petit carreau, ça n'existe pas. Ça existe en 92 pages, ça existe en 140 pages, hein, ça existe en grand carreau ou en 21 sur 29,7. Mais en petit carreau, format 24 sur 32, 48 pages, ça n'existe pas.
Je suis désolée de te dire ça, mais c'est ce que me demande la prof de français. Regarde, là, c'est marqué, là.
Bien, c'est bien dommage pour toi, ma petite fille, parce que tu vas devoir te la farcir toute l'année. Et j'ai le regret de te dire que ta professeure de français est une conne.
S'il te plaît, pas si fort, s'il te plaît. Oh, tout le monde te regarde.
M'en fous. Alors, ta professeure de français, on va lui prendre un cahier de 92 pages, hein? On va lui en arracher 44, on va lui faire un petit paquet, puis il reste pas cher avec. Là.
Valérie Bonneton dans Fais pas ci, fais pas ça, la fameuse série de France 2 qu'on adore. C'est un article paru dans Libération ce matin qui explique donc que plusieurs associations à Nice ont distribué des kits scolaires aux enfants de sans-papiers. Et dans le même numéro ce matin de Libération, on nous parle du candidat au municipal Rassemblement National à Nice, issu du bloc identitaire. Donc modéré,
oui.
Hein.
Quoi?
Et en même temps, ces associations. Alors, vous avez vécu à Nice. Votre roman se passe là-bas. Est-ce que vous aviez 15 ans à l'époque quand vous êtes arrivé? Est-ce oui. que on sent la tension entre ces deux extrêmes idéologiques, ceux qui tendent la main, ceux qui aident jusqu'à parfois se mettre dans l'illégalité et
je crois
et
pas.
L'extrême droite.
Qu'on la ressente quand on ouais. est dans la ville, je crois pas. Je crois qu'il y a il y a beaucoup de facettes de Nice. D'ailleurs, j'ai entendu parler de Parti communiste, etc. Il faut savoir que pendant des années, le Parti communiste était extrêmement présent et puissant à Nice. Mm-hmm. C'est pas uniquement une ville de droite, voire d'extrême droite, etc. Il y a deux facettes, deux grosses facettes, on va dire. Il y a la facette promenade des Anglais, avec les gens richissimes qui se payent un peu tout et qui payent un peu les autres aussi, il faut pas l'oublier, ouais. parce que Nice est une ville balnéaire. Et puis il y a la facette grande ville, comme toutes les grandes villes françaises, donc avec son ghetto, entre guillemets, voire ses ghettos, à l'Ariane, au Moulin, etc. Donc voilà, on en est là, c'est un peu compliqué mm-hmm. dans ces quartiers-là, pour tout le monde. Et puis après...
Et donc il peut y avoir ici un tissu associatif ouais. qui est assez serré toujours. Que pour être très solidaire.
Toujours, toujours. Mais moi je regrette qu'on doive se lever les manches un peu tous et tout seul et, ouais. et être à l'origine de tout pour aider les autres en fait. C'est pas forcément... C'est pas forcément. Alors, ça doit venir des gens, mais ça doit peut-être venir un petit peu de l'État aussi,
ouais.
et de la municipalité. Oui. Quoique,
dans votre roman,
pas si mal.
Qui est un roman pour la jeunesse, le héros est mineur et il finit par aider des réfugiés parce que ça se passe à la frontière, aider des réfugiés à passer la frontière. C'est une partie fictionnelle où vous avez donné un petit coup de main. Et si c'est fictionnel, est-ce que c'est un choix politique? Pourquoi l'avoir mis dans le roman?
Pour faire réfléchir. Pour faire réfléchir. Ça m'est jamais arrivé, et pas à Nice, mais c'est vrai que bon, ça a été un sujet pendant une paire de mois quand même. Je me rappelle plus du nom du monsieur d'ailleurs.
C'est Cédric Héroux.
Oui, exactement.
Oui, vous parlez de la vallée de la Roya d'ailleurs.
Voilà, de la vallée de la Roya.
C'est encore un sujet.
Oui, oui, oui. C'était pour faire réfléchir et pour amener justement des sujets un peu plus lointains que bon la musique, les filles, le lycée sur un roman pour ados. On prend pas forcément parti. C'est une histoire, c'est une fiction, et il y a pas tout le volet justice dedans. Ouais. Quoi.
Et vous faites aussi un parallèle avec l'histoire de votre voisin du dessus, qui est Samuel Rubinstein. Et vous faites clairement le parallèle entre lui qui a dû sauver sa peau.
Comme juif, a dû passer ses montagnes, pareil, de nuit gamin, et les Africains qui les passent dans l'autre sens.
Ouais, ouais, absolument.
Et vous faites très, très clairement le parallèle. Donc vous dites que vous prenez pas parti.
Gauchiste. j'ai pas ma palette de couleurs, mais je suis un petit blanc. J'ai vécu dans une famille très, très normale à Nîmes, mais quand je suis parti à Nice, je me suis retrouvé dans un endroit où on a vécu tous ensemble, en fait. On a vraiment vécu tous ensemble. Nice a une énorme communauté juive, notamment. Ma toute première petite amie était juive. Enfin voilà, on était vraiment tous ensemble. Et je pense que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. D'ailleurs, pour reparler un petit peu de sport, finale de la Coupe du Monde l'année passée, j'étais avec toute ma bande d'amis. On est une vingtaine et il y avait deux Chinoises avec nous. J'ai eu la chance, donc il y a un an et quelques, d'habiter pas très très loin de l'Arc de Triomphe. On est descendu, on est allé faire la fête avec tout le monde. Et elle m'a regardé en me disant, mais alors ça, en Chine, jamais ça pourrait arriver qu'on se prenne tous dans les bras. Et elle avait peur, quoi. Elle était pas très sereine, quoi. Et on lui a dit, t'inquiète, ça va bien se passer. On est en France ici. T'en fais pas.
Yannick Agnel avec nous, et dans ce studio également, Hippolyte Gérardot.
Oui, bah oui, mais enfin bon.
Oui.
Yannick, vous êtes resplendissant, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes sympa, quoi. Vous êtes tout de santé vêtu et votre présence irradie de séduction nos jupitériennes ici et nous humilie, nous, les deux jupitériens, c'est la même table. C'est déprimant. Même énervant. Voilà.
Donc, sortez maintenant.
Voilà. Je me suis précipité quand même sur la doc qu'on a fait sur vous pour y trouver la faille parce que sinon c'est pas la peine. Ah, j'ai trouvé quand même.
Oui,
j'ai trouvé.
Beaucoup.
Oui, j'ai trouvé. Effectivement, après votre succès aux Jeux Olympiques de Londres, vous êtes double champion olympique. Rupture avec votre entraîneur historique, exil américain, ça c'est pas de peau d'aller en Amérique, c'est sûr. Et puis au final, burn-out, échec à Rio. Là-dessus, le drame atroce de la disparition de votre ami, déprime absolue. Et vous avez dit, j'ai plus piscine, j'ai fac. Formidable. Ça, c'est un parcours pour moi. Si jeune, c'est merveilleux. Parce qu'on aime les sportifs parce qu'on les envie. Ils sont payés pour faire ce qu'ils aiment. Alors, en général, les déprimes au boulot dont on parle, hélas, sont des boulots durs, mal payés et en plus, en général, mal aimés. Mais les sportifs, les dieux du stade, les dieux du gazon, de l'eau et du chlore, mais enfin quand même. Alors en creusant, j'ai trouvé un petit article dans Libé la semaine dernière dont le sujet effectivement était la dépression chez les sportifs de haut niveau. Waouh !
La petite mort.
Eux aussi, exactement. Et oui. En 2018, deux basketteurs américains, des bêtes, ont reconnu publiquement que la dépression les minait, leur bouffait la rate, leur bouffait les muscles. Dans cette société américaine où la joie de vivre, l'optimisme, le dépassement de soi sont des vertus cardinales célébrées à coups de fusil, revolver et mitraillette, déclarer qu'on est dépressif équivaut à dire qu'on doute de la direction du mouvement au conclave de LREM. C'est de l'hérétisme. Va des rétros, Satanas. En France aussi, la dépression guette dans le milieu du sport. Et aujourd'hui, on accepte effectivement les psys à la recherche de moins de souffrance, peut-être avec moins de performance. Mais mon cher Yannick, ne croyez pas que nous sommes en dehors de cette problématique. Hein ? Non, pas du tout. Tous ces comiques là que vous voyez autour de la table sont évidemment de grands dépressifs. Je vous l'assure. On en parle peu car notre job est justement de faire rire. Mais si vous saviez la souffrance qu'il y a derrière, vous pourriez rigoler rien moins. Hein ? On a vu plusieurs fois des blagueurs patentés fondre en larmes devant une machine à café qui ne fonctionnait pas. Moi, j'ai entendu personnellement des sanglots sans fin derrière les vitres teintées d'un des bureaux recouverts de post-it où étaient écrits des blagues hilarantes. On a même vu, n'est-ce pas, Juliette, un chroniqueur errer sans fin dans les sous-sols de la maison de la radio parce qu'un Twitter lui avait écrit « Tu n'es plus drôle ». Je me souviens. C'est déprimant. Mais la dépression, elle est partout, En politique, je viens de le dire. Quand t'es député LREM, t'es déprimé aujourd'hui. Ils se croyaient au-dessus de la boue des partis et ils s'aperçoivent que c'est pareil. Ça déprime sec en ce moment à LREM. Ceux qui rigolent, c'est les Républicains qui sont sous Prozac depuis des années. Les socialistes, ils sont encore en train de chercher la pharmacie. Non, non, je veux dire, la dépression est partout. Partout, partout. Et moi, je vais vous dire, c'est tant mieux. Voilà. Si on déprime, c'est qu'on souffre. Et en général, quand t'as mal, qu'est-ce que tu fais? Tu réagis. Et à partir du moment où tu réagis, tout est possible. Même ta dépression, t'y penses même plus tellement t'es occupé à te battre. Voilà, la dépression et votre vie en est l'exemple, permet absolument tout. Tout devient possible. Moi-même, je me sens en route vers une bonne dépression et ça me réjouit. Oui, j'en ai marre de devoir penser printemps, Non, non, moi je veux penser hiver. Je veux penser winter is coming. Moi aussi, je veux profiter des affres de la dépression.
Hippolyte Girardot, la dépression créatrice, donc attendez-vous à ce que ça monte en puissance toute cette année. Merci Hippolyte. Abordons ce dernier sujet. Oui, Yannick Agnel avec nous. D'ici la fin de l'année aux États-Unis, les ventes de disques vinyles vont dépasser les ventes de CD. Plus la musique se dématérialise, plus se vend de vinyle donc. Et parmi les meilleures ventes de 33 tours en France, on trouve même Angèle Worrell-San.
J'ai trouvé le premier album des Licorice Comfit chez Vintage Vinyl, celui où il y a Testament of Youth. Il n'est jamais sorti ici, seulement en import japonais.
Génial, génial.
Je te ferai une cassette.
Non, c'est pas la peine.
High Fidelity, le film de Stephen Frears sorti en 2000. Un article notamment dans Les Échos, ce début de mois de septembre, sur la musique en téléchargement qui chute aussi. C'est la musique en ligne, en streaming qui monte. Donc on a même, dans la dématérialisation, on n'a même plus le fichier maintenant. Donc on va de plus en plus loin. Votre héros, Yann, dans le roman, il se balade partout avec son Walkman, alors que c'est complètement daté. Alors, est-ce que vous aimez les vieux objets? Est-ce que vraiment vous avez écouté sur cassette à cette époque?
Ouais, ça pour le coup c'est du vécu.
Ah oui,
vraiment. Ouais, ouais. J'étais déjà daté à l'époque, mais j'avais pas des CD, j'avais des CD gravés. Donc voilà, toujours l'esprit un peu pirate. Je me faisais des petits best-of avec des musiques pas du tout du moment. Quoi,
Et vous aimiez le son de la cassette dans le Walkman? Vous avez voulu le garder à ce point-là?
Non, non, c'est juste que j'avais pas l'argent pour m'acheter un MP3. Ça venait tout juste de sortir ou pas du tout. Hein. Là, on parle d'une époque où l'iPhone n'était pas encore sorti ou presque. J'avais juste pas l'argent et donc voilà, j'adore la musique. Je peux pas vivre sans musique en fait. Et d'ailleurs, je suis consommateur de vinyle, donc je fais partie sûrement de ces gens-là parce que quand on a envie d'écouter quelque chose, maintenant il suffit de quelques secondes pour télécharger la chanson, pour l'écouter en streaming, pour l'écouter, la réécouter. Mais quand on aime vraiment la musique, quand on aime les artistes, etc., moi je trouve en tout cas qu'on aime posséder, c'est un bel objet et c'est une routine, c'est un rituel qui est absolument génial. Mm-hmm. De se prendre un petit verre, de poser le diamant sur le vinyle, d'écouter le petit craquement, je trouve ça fabuleux.
Et le son est quand même 1000 fois meilleur.
Oui, pareil, plus chaud aussi que le MP3.
Le parallèle est tentant avec les championnats de France 2009 où vous avez nagé en maillot quand tous les autres nageaient en combinaison en polyuréthane. C'était la bonne démarche.
Qu'est-ce que c'est ce petit côté vintage?
Ouais, c'est quasiment du vinyle d'ailleurs les maillots. C'était une autre démarche, une autre démarche. J'avais 15 ans, 16 ans à ce moment-là, en 2009, et en gros, ils nous ont sorti des combinaisons en polyuréthane, qui est un matériau extrêmement déperlant, imperméable. Vous le mettez à n'importe qui, c'est une seconde peau, et en gros, vous prenez votre caipirinha et vous flottez. Et donc, le but de nager, c'est que sur les derniers mètres, vous êtes un peu fatigué, vous vous enfoncez, donc vous êtes moins hydrodynamique. Mmh. Et là, ça supprimait ça. Donc, en fait, tout le monde s'est dit, ah, mais chouette, en fait, on fait plus de natation, on fait de la muscu.
Donc, on a compris que vous étiez un résistant. Voilà. En la matière.
Pour le coup, ça n'a jamais été mon kiff.
Est-ce que vous auriez un feu de questions pour Yannick Agnel?
Oui, j'ai un feu de questions parce que j'ai un questionnaire de Jupi Proust.
Alors, on y va?
C'est un peu Proust, un peu Jupi.
Allez, c'est parti.
Sur une échelle de 0 à 10 de la gauche, Yannick Agnel, à combien vous situez-vous?
Oh, au moins à 12.
Yeah! Sur une échelle de 0 à 10 de la droite ou de 0 à 12 de la droite, à combien vous situez-vous?
Oh, à moins 12.
Question Giacometti, dans un incendie, vous sauvez le tableau de Rembrandt ou le chat?
Oh, le tableau de Rembrandt.
Oh,
Pauvre chat.
On est au moins deux dans le studio. Merci Yannick.
Ah bah bravo, bah faites un club avec Charline, monstre. Question James Cameron sur le Titanic. Vous sauvez Jack ou une assiette de frites?
Oh, une assiette de frites.
Ah, ah d'accord. Et ça fait deux points communs avec Yannick Agnel. Super.
Vous vous appelez Yannick pour Yannick Noah et sa victoire en 83. Pensez-vous que les enfants de 2040 s'appelleront Yann pour Yann Moix?
Non, ils s'appelleront Juliette.
Oh, oh là, 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 là. Quelle figure politique aimeriez-vous croiser en slip de bain à la pistoche?
Oh,
ça peut être un homme, ça peut être une femme.
C'est dur, c'est dur. Ah, une femme? Je vais réfléchir.
Non, vous pouvez pas. Allez-y.
Il faut pas réfléchir.
Comme ça vous vient.
Bon, un petit François Hollande. En boule vite.
Attendez, parce que vous venez de Nice et Christian Estrosi, quand même, s'il y a bien un mec qui se montre en maillot tous les ans.
Ouais, mais c'est un beau gosse. Ça a pas le même. C'est un sportif. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Mais ça n'a pas le même humour.
Enfin, moi, je trouve François Hollande très joli. J'ai dit ça vraiment. À choisir, vous préféreriez être arabe, noir, juif, femme ou gros?
Tout à la fois. Moi j'aurais des raisons.
Et enfin, vous pouvez nous chanter la mélodie de l'hymne national albanais?
Albanais ou arménien, je sais plus.
Alors albanais, arménien, je vous fais un prix de gros, allez-y.
Aucune idée.
C'est dommage.
Yannick Agnel avec nous. Merci beaucoup. On a passé un excellent moment en votre compagnie.
Vous.
Tout comme pendant la lecture de votre roman. Roman pour la jeunesse, on le conseille vraiment aux adolescents et plus. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour le lire, ce roman, qui s'intitule Yann. Yannick Agnel avec Pascal Ruter, inspiré de votre adolescence, de votre challenge au centre de formation de Nice. Avec plein de choses qui se coulent dans la fiction. C'est donc chez Hachette Roman. Merci beaucoup, les amis. Merci Rukiata. Merci Hippo, Juliette, merci Guillaume. Et bien demain, nous allons recevoir le rappeur Lord Esperanza.
Il n'a pas de prénom?